Allô, allô. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bon, tu veux nous présenter ta reconversion?
Oui, avec plaisir. Alors, on va commencer par le commencement. D'où m'est venue l'idée? Que faisais-je à ce moment-là? Donc, j'étais guichetier à la poste, à la Selle Saint-Cloud, et j'étais responsable de l'annexe à la Jonchère. Et j'avais un bon contact avec la plupart de mes clients, dont un avec qui je discutais régulièrement et qui savait que je venais au boulot à vélo. Donc on discutait un petit peu vélo. Et un jour, il m'a dit qu'il avait un problème technique avec son vélo à lui. Et il avait également un problème logistique pour emmener son vélo chez le réparateur. Il ne pouvait pas le mettre dans sa voiture, il ne pouvait pas y aller à vélo. Si éventuellement il pouvait y aller à vélo, c'était compliqué de revenir à pied. Bref, je lui dis, si vous voulez, je peux passer voir si je peux, ce que je peux faire, ce que je bricolais moi-même sur mes vélos. Et donc je suis passé, il m'a offert le café, et j'ai regardé son vélo, et en fait c'était vraiment pas grand-chose, c'était juste le garde-boue qui touchait la roue. Et donc il a été très content, et à ce moment-là je me suis dit, si ça se trouve il y a plein de vélos comme ça, qui sont dans les caves, dans les garages, et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être rénovés pour pouvoir servir à nouveau.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toi t'avais jamais pensé à changer de métier? T'avais jamais eu envie de changer de métier?
Si, tout le temps en fait.
D'accord.
J'ai toujours eu envie de changer de métier, j'en ai d'ailleurs fait quelques-uns avant d'être guichetier. J'ai été animateur loisirs, j'ai été facteur, j'ai évolué 3 fois au sein du métier de facteur. Je suis monté en grade une fois en tant que guichetier et j'avais postulé pour 2 postes différents au sein de la poste lorsque je ne voulais plus être guichetier. Et j'ai eu d'autres projets d'ailleurs de création d'entreprise. Et celui-là s'est imposé un petit peu de lui-même.
C'est-à-dire qu'avant de te lancer dans celui-là, c'est un truc auquel tu réfléchissais un peu en toile de fond, c'était là quelque part?
Oui, complètement.
Mais en même temps, c'était pas allez, je m'assois et puis je réfléchis à ma reconversion.
Non. Non, j'aime bien laisser les idées me traverser.
Ouais.
Et les laisser mûrir. Alors, j'ai eu par exemple comme idée de faire des. Enfin, créer une société d'aménagement de toits, d'aménagement de verdure.
Vert, ouais.
Faire des jardins sur les toits. Et j'ai constaté peu de temps après que d'une part, il y avait un potentiel parce que ça commençait à arriver en France et que c'était en pleine explosion à New York. Et ça m'a fait.
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi cette idée-là?
Parce que matériellement, ça me semblait très compliqué,
d'accord,
que je n'y connais rien, je n'y connaissais rien, si ce n'est que j'ai un peu la main verte, mais ça me semblait être une trop grosse entreprise, au sens large du terme.
Ouais.
Ça me semblait trop gros à entreprendre, sans connaître personne dans le métier, sans avoir jamais. Travailler comme jardinier ou comme paysagiste, voilà.
Donc tu as eu plusieurs idées comme ça,
ouais.
Qu'est-ce qui fait que celle-là, elle s'est enracinée?
Alors, pour les raisons qui font que ça marche relativement parlant, mais aujourd'hui je peux dire que ça a plutôt bien pris. La première, c'est que j'aime le vélo. Donc c'est un produit, contrairement à ce qu'on m'a fait croire lorsque j'étais plus ou moins agent commercial pour la Poste, c'est qu'on vend beaucoup mieux un produit en lequel on croit et qu'on aime, à moins d'être un requin, d'être commercial dans l'âme, mais effectivement on est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il y en a qui le font très bien, mais pas moi. Voilà, j'aime le vélo pour sa pratique, mais également pour son utilité.
Ouais.
Et son utilité sociale, sanitaire, écologique. Donc voilà, la première, c'est l'amour du vélo. La deuxième, c'est que je suis assez manuel, j'aime bien bricoler. Je bricolais déjà mes vélos. Et même si j'avais conscience d'avoir besoin d'une réelle formation pour me lancer, ça me semblait tout à fait à ma portée. Contrairement à paysagiste
ouais,
de toi.
Ouais. En fait, c'est ça qui a fait qu'elle a germé cette idée-là.
En partie, En partie, et également parce que je vis sur un secteur, Versailles et ses environs, où il y a un énorme potentiel pour les réparateurs vélos. Parce qu'il y a énormément de pratiquants, que ce soit des sportifs, que ce soit des vélotaffeurs. Petite précision, vélotaf, c'est le fait de se rendre au boulot à vélo, ce que j'étais avant. Donc voilà, les amateurs, les sportifs, les vélos utilitaires, les vélos, les balades en famille. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cyclistes dans la région. Il y a beaucoup de pistes cyclables, il y a beaucoup d'espaces naturels à aménager, mais il y a beaucoup de forêts pour les vététistes.
Donc ça veut dire qu'avant de te lancer, tu as exploré tout ça?
Explorer plus ou moins. Alors j'ai effectivement fait faire une étude de marché avant de me lancer, mais j'avais pu constater par moi-même.
Oui, alors en dehors de l'étude de marché, c'est des réflexions que tu avais faites par l'observation.
Oui.
Ouais.
Il y avait une adéquation entre mes compétences et ma capacité à acquérir les bonnes compétences et l'environnement.
Et l'envie.
Et l'envie, bien sûr. Et je sais très bien que si ça marche ici, ça marchera pas forcément dans n'importe quelle ville de province. Transposer le projet juste parce qu'il marche ou juste parce qu'on l'aime bien, ça suffit pas. Il faut vraiment une synergie entre ces différents points.
Alors, quel était le processus? Comment tu t'es décidé à te lancer?
Étape par étape, c'est-à-dire que je pense que la première étape, c'est d'en avoir marre, tout simplement, de son train-train quotidien, d'avoir marre des collègues toujours absents, enfin toujours les mêmes qui sont absents, et puis ceux qui sont là, mais bon, bref. J'aime beaucoup le travail en collectif, mais il faut que le collectif me convienne aussi. Voilà. Et c'est pas évident. Les patrons, j'en ai eu plusieurs, certains très très sympas et très compétents, et d'autres que j'aurais bien remplacés. Donc voilà, la première étape, c'est une insatisfaction au quotidien. La deuxième étape, c'est de se dire, bon, ok, ça me plaît pas, mais pour me plaindre, ça me convient pas non plus. Donc je vais voir ce que je peux faire d'autre. J'ai donc exploré ce qui était faisable au sein de la poste. J'ai postulé et puis ça n'a pas marché.
C'est-à-dire que tu as postulé pour d'autres jobs à la
Ouais,
poste.
tout à fait.
Ouais.
Notamment. Je retrouve le terme. Il y en a un, ça concernait la sûreté, l'autre, ça concernait la sécurité au travail. Et ça me bottait vraiment, parce que bon, j'ai toujours été formé comme secouriste, et aussi pour la sécurité au travail. Et voilà, j'étais vraiment motivé pour ce poste et je me suis complètement planté à l'entretien. Et a posteriori, je me suis dit, bah, il fallait que je me plante à ce moment-là. Donc voilà, j'ai cherché d'autres possibilités et à un moment donné, on a eu des communications au sein du bureau au sujet des conseillers en mobilité. Et effectivement, la mobilité m'intéressait d'un point de vue géographique, parce qu'avec ma femme, on souhaite partir en province. Et donc, l'idée de changer me taraudait un petit peu l'esprit. J'ai appris également que les conseillers en mobilité pouvaient conseiller pour la reconversion professionnelle
Ouais.
au sein de la poste ou en dehors de la poste. Donc, j'ai pris un rendez-vous. J'ai exposé mon projet de réparation de vélo à domicile.
Donc à ce moment-là, il était déjà pas mal construit ton projet.
Oui.
Ouais.
L'idée du camion, l'idée du camion vitrine, l'idée de venir à domicile, ça c'était déjà bien ancré.
Ouais.
Et donc voilà, étape par étape. Je suis allé voir la conseillère en mobilité. On a discuté un petit peu de mon projet. Elle m'a dit comment présenter la chose, affiner un petit peu
Ouais.
le projet. Elle m'a mis en contact avec un conseiller en création d'entreprise. Et voilà, et à partir de là, ça s'est concrétisé. Je me suis lancé donc dans l'étude de marché. J'ai fait appel à Junior ESSEC Conseil. Ensuite, j'ai commencé à chiffrer un petit peu le projet. Le camion, les outils. Je me suis renseigné sur la formation. J'ai fait une demande de congé de formation qui a été acceptée. Et donc voilà. Après, j'ai. Voilà.
Comment ça s'est passé le point de bascule, c'est le moment où on décide de se lancer. À quel moment tu t'es décidé de te lancer et qu'est-ce qui t'a amené à cette décision-là?
Alors le point de bascule, je crois pas que ce soit aussi net que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je me suis dit bah ok ça y est je me lance, alors que la veille j'étais pas sûr. Et ça a été beaucoup de discussions avec ma femme notamment, parce que c'était indissociable pour moi. Il fallait que je me sente soutenu familialement. Alors pour mon fils, c'était complètement acquis, il n'y avait pas de souci. Il fallait que je puisse me lancer pleinement, en toute confiance. Et pour ça, il fallait que je me sente soutenu. Voir que ma femme soit partie prenante. Un truc tout bête, mais pour ma formation, j'avais un stage de 4 mois sur le terrain à effectuer, et en fait j'ai commencé ce stage sur mes congés payés parce que j'étais encore salarié, et donc j'ai travaillé un mois dans un magasin spécialisé à Lisieux. Alors c'est vraiment tout bête, mais pendant que je travaillais, ma femme était déjà en congé, elle a cherché dans les pages jaunes les numéros de téléphone des magasins pour que je leur envoie, pas que je les contacte et que je leur envoie des CV pour une lettre de motivation pour le stage. C'est voilà, c'est des petites choses comme ça.
C'est une aide concrète finalement.
C'est une aide concrète en plus de l'aide morale et intellectuelle, parce qu'on discute ensemble de ce qui est faisable, de voilà, je lui fais part de mes idées et elle me fait part de ce qu'elle en pense.
C'est comme ça aussi que tu construis tes idées, en parlant avec elle.
Ouais. J'en ai. Une autre idée que j'ai eue, mais qui reste tapis dans l'ombre, c'est la création d'un café culture, où donc il y aurait chaque jour une animation à thème, que ce soit un café philo, soit des concerts ou des expositions de peintres, ou de trucs un peu plus tendance, genre exposition de tatoueurs, des trucs comme ça. Et pourquoi pas le mercredi, atelier lecture de contes pour les enfants avec un goûter et tout ça. Donc ça aussi, c'est un projet qui mûrit lentement en parallèle. Et bah voilà, ça j'en ai discuté avec ma femme, et clairement, un argument qui m'a fait mettre ce projet en attente, ou de côté, où on verra s'il se réalisera certainement, peut-être pas, je sais pas. C'est que c'est difficilement compatible avec la vie de famille. C'est que quand on tient un commerce dans la restauration, parce que bon, ce serait quand même un café, donc les horaires font que on est plus suffisamment disponible pour la famille et que tout le rythme familial en pâtit trop. Et voilà, ça j'étais pas prêt. Et puis ça demande aussi une implication autre, physique du conjoint. Je pense que le faire vraiment tout seul, c'est compliqué. Et voilà, ma femme n'était pas prête à se lancer là-dedans.
Et donc du coup, si on revient sur ton parcours, il n'y a pas vraiment eu de moment de bascule, ça s'est plutôt fait au fil de tes démarches et de tout ce que tu as entrepris finalement. Et donc ensuite, tu es rentré en formation.
Ouais. Donc à la suite de l'étude de marché qui s'avérait positive, je me suis dit bon bah ok, on passe à l'étape suivante. l'étape suivante étant de se former. Parce qu'il était pour moi hors de question de me lancer comme ça, un peu à l'aveugle. Il fallait que ce soit sérieux et que mettre un maximum de potentiel dans ce projet. Donc je suis rentré en formation, donc l'étude de marché a fini en janvier 2015. J'ai commencé ma formation en août 2015, donc dans ce magasin de vélos spécialisé. Ensuite, j'ai effectué 7 semaines en école à sup de vélo dans le Gers.
Comment ça s'est passé avec la poste? À ce moment-là, tu avais quitté la poste, comment ça
non,
s'est passé?
Non, en fait, j'ai toujours pas quitté la poste.
Ça,
c'est vraiment un point très positif dans cette société, dans cette entreprise. C'est que, alors autant j'avais demandé déjà une rupture conventionnelle, on ne me l'avait pas accordée, autant quand j'ai parlé de créer mon entreprise, j'ai été très, très aidé. Donc quand j'ai fait ma demande d'autorisation pour le congé de formation, je l'ai eu tout de suite. J'ai été appuyé par mon directeur et voilà, il n'y a eu aucun frein à ce niveau-là. Le Fongécif m'a accordé également le. Parce que bon, c'est bipartite quoi. C'est, il faut que les deux donnent leur accord. Alors ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont conforté dans mon projet, c'est que j'étais éligible au congé de formation,
oui.
Mais j'avais aucun des critères de priorité. Trop jeune, trop diplômé, pas assez d'ancienneté dans l'entreprise. Bref, on m'avait dit qu'il y avait 50% des dossiers qui étaient retenus. Et c'était un peu, pas un coup de poker, mais j'avais vraiment qu'une chance sur deux de l'obtenir. Et je l'ai obtenu tout de suite. Donc ça m'a conforté. Je me suis dit, si on me l'a accordé, c'est que le dossier est solide et que le projet semble réalisable. Et donc voilà, donc la Poste m'a vraiment accompagné. Alors, de ce point de vue-là, au niveau de la formation, au niveau des congés, parce que j'ai enchaîné mon congé de formation par un congé sabbatique. Et actuellement, ensuite j'ai enchaîné avec un congé pour création d'entreprise. Et là, je viens de faire la demande pour prolonger ce congé pour création d'entreprise, donc encore un an. Et après ça, j'aurai encore la possibilité de demander un congé pour création d'entreprise postal. C'est-à-dire que la Poste offre encore une année renouvelable. Comme parachute, quoi, comme sécurité. Donc pendant potentiellement encore 3 ans, je peux revenir à la Poste. Donc je fais encore partie de la Poste, je reçois une fiche de paye à zéro, mais je fais encore partie de la Poste. Par contre, j'ai perdu mon poste. Si jamais je voulais revenir, je n'aurais pas la possibilité forcément de revenir. Alors, je reviendrai au même grade, mais pas forcément dans le même bureau. Donc, ça s'est très bien passé. Là, on avait également une RH de proximité qui pareil, m'a encouragé, m'a soutenu dans mon projet. Alors, elle, parce qu'elle en avait un petit peu marre d'entendre les doléances des autres agents qui, de leur côté, ne faisaient pas grand-chose pour améliorer, enfin pour chercher ce qui leur convenait. Et donc voilà, elle était séduite aussi par le projet, par l'initiative, par mon initiative. Donc non, ça s'est très bien passé. Cerise sur le gâteau, la Poste propose une aide financière à leurs créateurs d'entreprise, à ses créateurs d'entreprise. Et donc voilà, c'est entre 3 et 30 000 euros, et moi ils m'ont accordé 8 000 euros, alors sous des conditions particulières, c'est-à-dire que c'est soumis à réussite. J'ai 3 ans, il faut que ça fonctionne pendant 3 ans pour que ce soit complètement acquis. Si ça fonctionne qu'un an, je dois rembourser les 2/3, si ça fonctionne 2 ans, je dois rembourser 1/3, ainsi de suite. Mais c'est une aide financière qui m'a beaucoup aidé.
Alors, qui t'a aidé à t'installer ?
Oui. Qui m'a aidé à m'installer et à attendre, enfin à voir venir les clients, quoi. surtout. Donc oui, donc j'ai été soutenu à 100% par la Poste.
Alors, raconte-nous ton installation.
L'installation, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'impatience et beaucoup de précipitation et à la fois beaucoup de cogitation pour préparer au mieux. Alors tout est relatif parce que j'ai été interviewé également par une personne de Jour Poste, donc c'est le petit journal de la Poste qui est envoyé aux employés. Et elle me faisait part de d'autres créations d'entreprise qui prenaient des mois et des mois et des mois. Et donc elle était étonnée lorsque je lui ai dit que en moins d'un mois, en fait, entre la création administrative de ma société et le début de et les premiers rendez-vous, ça m'a pris moins d'un mois. Et donc voilà, elle était surprise. Ça paraît extrêmement long. Ça m'a paru, moi, extrêmement long ce mois. Parce qu'on doit gérer un tas de choses en même temps qui ne se passent jamais dans le délai auquel on s'attend. Il y a toujours un truc qui est repoussé, puis il faut le document A pour valider le document B, seulement il faut le document B pour valider le document C, et puis en fait il fallait le document C pour valider le document A. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et en entrant en fait dans un univers. Et c'est ça qui est déroutant, qui est stressant et à la fois passionnant. Donc globalement, a posteriori, je peux dire que l'installation s'est très bien passée. Simplement, j'ai dû attendre plus longtemps que prévu pour avoir le camion. Évidemment, il fallait que j'aie le camion pour faire l'habillage extérieur du camion. Il fallait que j'aie le camion pour mettre l'établi à l'intérieur, pour fabriquer mon atelier dans le camion. Il fallait que l'atelier soit fait pour que je puisse installer mes outils. Bien sûr, j'ai reçu les outils avant d'avoir fait installer l'établi. Voilà, c'est étape par étape, c'est stressant. On n'est jamais prêt. Le premier rendez-vous, c'était mon beau-père qui me soutient aussi depuis le début de ce projet et qui tenait, il m'avait dit des mois à l'avance qu'il voulait être le premier client. Donc c'est le premier client, facture 001, c'est celle de mon beau-père. Et j'ai pour cette intervention, j'ai déballé certains outils. Voilà. Et puis vient le moment où on est plus ou moins installé. Il y a encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a toujours des aménagements à faire dans le camion. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas forcément le temps, ou alors c'est coûteux parce que je peux pas le faire moi-même. Le moment où on se dit bon bah voilà, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de clients maintenant, hein, que je suis prêt. Et puis j'ai été très agréablement surpris. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé dans la conception du projet. On pense à faire de la pub sur le camion, on pense à faire de la pub distribuée en boîte aux lettres, on pense à faire de la pub par des flyers qu'on va déposer sur des vélos, et on ne pense pas à la chose la plus efficace et la plus évidente, c'est que la meilleure pub, c'est d'être vu en train de travailler. Et alors là, ça m'a donné un coup de pouce formidable.
Comment tu as pensé à ça?
Ah, je l'ai constaté.
Tu l'as constaté, ouais.
Je l'ai constaté parce que tant que j'avais pas d'intervention auprès de clients qui faisaient appel à moi, bah, je travaillais dans ma rue, sur mes vélos ou sur les vélos de la famille. Et en fait, en étant vu en train de travailler, les gens s'arrêtent, ça les interpelle, ils comprennent tout de suite de
De quoi
quoi
il
il s'agit.
s'agit. C'est d'ailleurs exactement comme ça qu'on s'est rencontrés.
Voilà, tout à fait. Et beaucoup m'ont demandé des cartes. Certains ont tout de suite pris rendez-vous. Et puis, j'ai encore aujourd'hui des clients. J'ai eu pas plus tard qu'avant-hier un client qui m'avait rencontré dans les toutes premières semaines de mon activité. Voilà. Et il a fait appel à moi, quoi, c'est 7-8 mois plus tard.
C'est en constatant ça que du coup tu t'es installé au bout de l'avenue du Tartre.
Alors, oui et non, parce que j'ai pensé à différentes manières de me faire connaître et d'avoir un maximum de clients. Et j'avais déjà pensé à m'installer sur des points fixes, que ce soit public ou dans des entreprises. Et étant chénésien, ça me semblait évident de demander à ma commune. Pour l'instant, je n'ai pas encore demandé ailleurs, mais ça viendra. Et puis, il y a également, enfin, il y a tout autant de cyclistes sur le Chênaie que sur Versailles. Donc, voilà, ça me semblait être un bon calcul à ce niveau-là. L'avenue du Tartre, en fait, c'était une proposition parmi d'autres, mais qui s'est avérée être la plus intelligente. Et donc, en discutant avec Monsieur Lévenez, le commandant de la police nationale, municipale, pardon, il m'avait dit que c'était l'endroit le plus simple en termes de sécurité et à la fois en termes d'impact, puisqu'il y a énormément de passages à
Et
ce
donc,
niveau-là.
c'est un lieu qui te permet de t'arrêter en bord de route, et donc, qui est assez passante, et d'être vu en train de travailler.
Exactement. Les clients ont vite pris l'habitude en fait, et donc certains attendaient le mercredi pour m'apporter leur vélo plutôt que de me demander de passer chez eux parce que c'était plus simple en termes d'organisation. Beaucoup de gens m'ont connu comme ça en passant par là, pas forcément des cyclistes, mais aussi des marcheurs, des joggeurs, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants pour se balader. C'est un endroit vraiment stratégique. Je suis vu, même les automobilistes souvent s'arrêtent pour me demander une carte en disant ah, oh, mais c'est
Même un
génial!
chauffeur de bus, je me
Même,
souviens une fois.
oui, tout à fait. Il y a un chauffeur de bus qui s'est arrêté et qui a tapé la discute. J'étais super gêné pour ses passagers. Mais ouais, le camion est visible et fait de la pub par lui-même. Quand on me voit en train de travailler, c'est très parlant également, et il y a un aspect très convivial dans le fait d'être positionné comme ça, parce que les gens qui en ont la possibilité restent volontiers discuter. Donc leur vélo se répare pendant ce temps-là, ou est déjà réparé, mais ils restent quand même discuter. Au beau jour, c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Ça rend le métier vraiment doux. Il y a une douceur dans cette manière de travailler parce que d'une part je fais le métier que j'aime, mais en plus de ça je le fais à ma manière. Je ne suis pas tributaire du travail des collègues ou des injonctions entre guillemets du responsable. C'est voilà, je gère les choses à ma manière et j'adore ce contact avec la clientèle. Et je pense que lorsque l'autorisation de stationner sera renouvelée, j'installerai une petite table et une petite cafetière parce que petit jus de fruits, il y a vraiment un aspect convivial et certains clients me l'ont fait remarquer, ils l'ont constaté par eux-mêmes et ils l'ont fait remarquer que ça crée du lien social. C'est quand même fou de se dire que en essayant de m'épanouir moi-même, j'arrive à créer quelque chose qui se perd dans notre société actuelle, alors que c'était absolument pas l'objectif
C'est
de
un
base.
bienfait collatéral.
Ouais, c'est ça, un bienfait collatéral. Et en fait, je pense qu'il, en toute modestie, il y a une sorte de rayonnement en fait, où si soi-même on arrive à s'épanouir et à créer quelque chose qui nous apporte ce dont on a besoin, ça se ressent et ça se répand. Ouais, le fait de stationner à un endroit comme ça, de générer des habitudes et de générer du contact, du lien social et de la convivialité, c'est quelque chose d'extrêmement réjouissant. Extrêmement. Ouais.
Et alors, quand tu dis que tu fais les choses à ta manière,
Ouais.
comment tu as fait pour justement faire les choses à ta manière? Que fais-tu à ta manière et comment tu t'y prends?
D'une manière globale, je suis quelqu'un d'assez organisé, mais de temps en temps, j'aime bien. De temps en temps, je me laisse déborder. Je me laisse déborder et j'aime bien remettre de l'ordre après avoir été débordé. Ça, c'est une sorte de dynamique. à la fois matériel et mental. Voilà, ça c'est en termes d'organisation, en termes de contact. On m'a souvent reproché dans mon ancien emploi de ne pas être assez proactif, de ne pas être assez comment dit-on, agressif dans la démarche commerciale. Ça, c'est juste que ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Maintenant, aujourd'hui, j'ai tout à fait conscience que si je vends des produits, ça profite à mon entreprise et c'est dans mon intérêt. Donc j'essaye d'avoir ce qu'il faut pour répondre aux besoins de mes clients, mais je leur dis pas ce qu'il vous faut, c'est ça. Et il vous le faut maintenant. Une autre chose, c'est la disponibilité, la flexibilité dans mon travail. J'ai donc un site internet sur lequel il y a l'agenda avec des créneaux disponibles et les clients peuvent réserver leurs créneaux sur le site directement. Parfois, les clients réservent et puis ils se rendent compte qu'ils avaient un autre rendez-vous et que finalement ils ne peuvent pas et ils sont tout gênés de devoir annuler ou reporter le créneau. Ça ne me pose absolument aucun problème. Je comprends tout à fait, moi-même je suis consommateur, moi-même je peux avoir des contretemps et je comprends tout à fait qu'on puisse déplacer qu'on ait besoin de déplacer un rendez-vous, de l'annuler. Et je me rends le plus flexible possible pour mes clients et souvent ils sont surpris, agréablement surpris que par ma réaction. Et moi je trouve ça normal. C'est juste, c'est ma façon d'être en tant que commerçant vis-à-vis d'un client.
Tu évoquais tout à l'heure l'importance pour toi et pour ta femme de concilier la vie professionnelle avec la vie privée, d'avoir du temps pour la vie
Ouais.
personnelle. Comment tu concilies cette grande flexibilité avec des horaires qui te permettent d'avoir une vie familiale acceptable?
Alors il y a un cadre, en fait. Il y a un cadre. Théoriquement, mes créneaux vont de 8 h à 20 h avec une pause déjeuner de 2 h. La pause déjeuner de 2 h me permet d'être présent pour mon fils quand il y a besoin d'aller le chercher à l'école ou de l'y emmener. Tout bête, il commence l'école à 8 h 25 et moi mes créneaux commencent à 8 h. Si ça tombe un jour où j'ai besoin de le déposer à l'école, bah, j'appelle mon client en disant OK pour le créneau de 8-10, mais par contre, je ne serai pas là avant 8 h 30. OK, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a un cadre qui me permet d'être au minimum présent pour ma famille. Après, il y a des choses où tout le monde comprend aisément que quand on est commerçant, travailler le samedi, c'est incontournable. On peut pas, enfin, je ne pourrais pas me permettre de ne pas travailler le samedi. Donc, effectivement, ma femme étant enseignante. Elle et mon fils ne travaillent pas le samedi, enfin quoi qu'elle pourrait, hein, mais ils acceptent très bien le fait que je ne sois pas là le samedi.
Que finalement, en échange, tu es là pendant 2 heures tous les midis.
Exactement. Exactement. Et puis voilà, il y a des périodes dans l'année où au mois de septembre, ils ne me voyaient pas beaucoup parce que ça m'est arrivé d'avoir des interventions jusqu'à 21 h. Ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et. C'est aussi l'avantage. Si on veut voir les choses positivement, il n'y a que des avantages. C'est-à-dire que si je suis peu présent pour ma famille, c'est parce que j'ai beaucoup d'interventions. Donc, c'est que les affaires marchent bien et c'est encourageant. Puis, c'est de l'argent qui rentre. On a tous besoin. Et s'il y a moins d'activité, bah, je suis plus disponible, je suis plus présent à la maison aussi. Voilà, je suis plus disponible pour ma famille. Voilà, après, les choses se mettent en place, donc il faut aussi le temps de prendre les bonnes habitudes et de se caler sur le rythme. Mais voilà, il y a un cadre qui me permet d'être suffisamment disponible avec des périodes où je le suis moins, des périodes où je le suis plus.
Et tu parlais de douceur tout à l'heure.
Ouais.
C'est important pour toi de travailler en douceur?
Oui, complètement. Complètement. Alors, ça me fait penser au deuxième magasin dans lequel j'ai fait mon stage pratique. Je ne citerai pas le magasin qui, par ailleurs, a fermé depuis. N'a pas supporté mon départ. En fait, le patron voyait un petit peu son activité décliner. Je présume que c'est pour ça qu'il était un petit peu tendu. Et il était colérique, il était nerveux, il avait vraiment une façon de s'adresser qui, à mon sens, n'est pas acceptable dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et avec des rapports autoritaires, hargneux, et moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Et en fait, j'avais une période d'essai de, je sais plus, 10 à 15 jours, quelque chose comme ça. Le dernier jour de la période d'essai, je lui ai dit, écoute, faut qu'on discute. Parce que clairement, là, j'ai un choix qui doit se faire là maintenant, d'ici ce soir. Et moi, je peux pas travailler dans ces conditions. Je peux pas accepter que tu me cries dessus. Je peux pas accepter que tu me bouscules. Humainement, je peux pas travailler comme ça. Et ça l'a fait réfléchir et ça l'a calmé et il a fait attention par la suite. Je pouvais très bien concevoir pourquoi il était tendu, mais ça pouvait certainement pas arranger les choses. Et moi, dans mon quotidien, dans ma façon de travailler, c'est pas supportable.
Ça a eu une influence, cette expérience-là, sur la façon dont tu vis ton entreprise aujourd'hui?
Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je ne travaille pas de la même manière puisque je travaille tout seul. Alors, ce faisant, ce monsieur était plutôt pas mal avec les clients. Il avait plutôt un bon contact. Il fallait que les clients soient là au moment où ça clash pour qu'ils se rendent compte de sa personnalité avec ses employés. C'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que si j'avais des employés, je mettrais un point d'honneur à mettre en avant la communication et une façon à la fois ferme mais juste, équilibrée de communiquer. Je ne pense pas qu'une entreprise puisse fonctionner correctement s'il n'y a pas une bonne synergie.
Alors, travailler en douceur, du coup, c'est essentiellement dans la relation.
Oui, parce que physiquement parlant, c'est pas un mécanicien, c'est pas un métier facile. On peut travailler sous la chaleur écrasante, on peut travailler dans le froid, on porte des vélos à longueur de journée, dont certains peuvent être très lourds, notamment les vélos électriques. On doit forcer des pièces qui parfois sont récalcitrantes. Physiquement, ça peut être dur. C'est pas un souci. Mais dans le rapport à l'autre, ça ne doit pas. Ça ne doit pas. Alors moi, c'est ma conception de la relation au client. C'est ma façon d'être, c'est mon choix, c'est ce que je mets en application. Après, c'est ce qu'on appelle aussi être commerçant. On ne peut pas fidéliser des clients en les envoyant en boulet, quoi. C'est-à-dire, le nombre de fois où je suis rentré dans un commerce où je suis sorti en me disant il faut choisir un autre métier, quoi. C'est pas possible. J'ai du mal à comprendre quand un commerçant fait son métier sans en avoir l'âme. Je trouve ça curieux. Bon, après.
Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui dans ton métier?
C'est marrant parce que je suis en train de lire un livre sur ce qu'est le bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux dans mon métier? Alors, plein de choses. Plein de choses. Il y a le retour client. J'ai sur mon site quelques avis clients. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai filtré aucun. Et ils sont dithyrambiques. C'est vraiment. Je m'attendais pas à ce que. Spontanément, parce que voilà, certains clients, je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez mettre un avis sur le site. Et d'autres, je leur ai rien dit. Et ils ont spontanément mis un avis avec les 5 étoiles. Youpi, quoi. C'est une énorme satisfaction. Alors parfois, j'ai également des retours clients sans que ce soit un avis sur le site, mais j'ai eu aucun retour négatif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun client insatisfait, mais s'ils le sont, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas signalé. Et j'ai beaucoup de retours clients par mail. Chose qui est assez marrante, c'est que j'envoie la facture par mail. La facture, en général, c'est pas le truc qui fait plaisir dans la démarche, quoi, enfin, dans le déroulé. Et les clients me répondent comme quoi ils ont bien reçu la facture et ajoutent un petit message hyper sympathique, comme quoi ils sont très satisfaits de la prestation, qu'ils vont faire de la pub pour moi autour d'eux. Et ça c'est. Ça, je le signale toujours à ma femme. Et c'est vraiment une source de fierté. Et ouais, ça me rend. Ce qui me rend heureux aussi, c'est de voir que je ne me suis pas trompé sur l'intelligence du projet, sur le fait qu'il soit adapté à l'environnement, sur le fait qu'il soit adapté à mes compétences, à ma capacité. Voilà, j'ai bien pensé le truc, je l'ai bien ressenti et je me suis fié à mon intuition. Et ouais, ça me rend heureux aussi parce qu'à tout moment j'aurais pu me planter et j'étais prêt à l'accepter, mais voilà, c'est une grande satisfaction de constater que j'avais raison d'aller jusqu'au bout. Et voilà, y a d'autres choses qui me rendent heureux. Ouais, il y a la possibilité aussi d'être constamment en train de réfléchir. Alors, sans forcément prendre le temps de me poser, de le mettre sur papier, de potentialiser chaque idée, mais toujours en laissant mûrir les idées, j'ai la possibilité d'envisager des évolutions pour ma société. Chercher un associé, avoir des employés, pourquoi pas créer une enseigne. Et l'exporter, délocaliser. Enfin, alors après, sous la forme Cyclopiro ou pas, mais pourquoi pas trouver un employé pour continuer ici et puis lancer une franchise ou lancer une annexe, quoi. Enfin, sur le même principe dans une autre ville. Voilà, il y a toujours des possibilités d'évolution.
Si tu devais le refaire aujourd'hui, il y a des choses que tu ferais autrement?
Ouais, je pense que d'un point de vue financier, je ferais plus attention parce que j'ai énormément payé de ma poche dans le principe, ça ne me pose aucun problème. C'est juste que j'ai pas forcément suffisamment anticipé la période creuse que je savais qu'elle viendrait.
Donc la période creuse qu'est l'hiver.
Qui est l'hiver, tout à fait. Alors, tout est relatif, elle est creuse, mais j'ai quand même plus de clients et plus d'interventions que dans la période printanière où je me suis lancé. Donc. Oui, je suis aussi très confiant sur le redémarrage, on va dire, au printemps. Donc, ouais, je pense que j'aurais fait plus attention financièrement parlant.
Pour anticiper
Ouais,
cette période
pour
creuse.
anticiper, ouais. Parce que je pense qu'une fois passé, ce sera viable. Mais ça aurait été tout aussi bien de ne pas avoir
Traverser ça.
à traverser ça. Après, comme on se l'est dit tous les deux, ça peut aussi être une source de stimulation. Quand j'étais élève, j'avais tendance à attendre la dernière minute pour faire la rédaction voilà, de français ou de philo, pour faire l'exercice de maths. Voilà, j'ai toujours été plus efficace en étant au pied du mur que du genre à anticiper, à peaufiner. On verra, hein. L'avenir dira si.
Et si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent se reconvertir?
Tout est possible. Tout est possible, j'en suis convaincu aujourd'hui. Tout est possible, mais il faut être prêt à se dire que bah, c'était faut être prêt à se dire ça marche pas, mais c'est pas grave. Ça marche pas, mais c'est pas un échec. Si je ne m'abuse, c'est Nelson Mandela qui a dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites et des apprentissages. On apprend de ses erreurs et c'est normal, c'est ce qui nous fait progresser, mais il faut surtout pas considérer ça comme un échec. Si demain je devais retourner à la poste parce que ça ne marche pas, je serais malgré tout extrêmement fier de ce que j'ai réalisé. Parce que on m'aurait dit ça il y a 4-5 ans, j'aurais pas cru que j'étais capable de faire ça. Et c'est déjà une énorme victoire sur moi-même et sur mon éducation, sur mon environnement, sur l'estime de soi. Je suis même voilà, si ça devait s'arrêter demain, je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait. Et je pense que on est nombreux dans ce cas-là à se dire, a priori, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que c'est faux, quoi, c'est faux. Faut prendre le temps, faut bien réfléchir, faut y aller étape par étape. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je l'ai fait, et je ne peux que conseiller de le faire comme ça. Après, certains font différemment et ça marche aussi. Mais je pense qu'effectivement, tout est possible, et c'est peut-être une question de mentalité propre à chaque peuple. Aux États-Unis, je pense que ça paraîtrait comme quelque chose de très banal. Monter sa société de réparation de vélo à domicile, bah ouais, pourquoi pas. American Dream. T'as envie, t'essayes, et voilà. Alors qu'en France, je crois qu'on est beaucoup plus frileux. On aime le confort, et bah, ça a du bon, c'est sûr. On a beaucoup de sécurité. En termes de droit du travail, en termes de sécurité sociale, et c'est des choses que je remets pas du tout en question, parce que humainement, je pense que c'est digne d'une civilisation évoluée. Mais à contrario, c'est même pas à contrario, c'est du coup, on est souvent dans la plainte, voire la complainte, et peu dans la remise en question ou dans l'innovation, dans la prise d'initiative. Et ça, c'est dommage. Et en même temps, dans une entreprise, est-ce qu'on encourage souvent, enfin dans celle que j'ai connue, est-ce qu'on encourageait vraiment la prise d'initiative? Est-ce qu'on valorisait les talents et les qualités des agents? Pas forcément non plus. Voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose d'être à l'initiative de projets, que ce soit en restant en tant que salarié, que ce soit dans la création d'une entreprise. Faut oser.
Merci, c'est copiant.
Avec plaisir, merci à toi.